CPU carré petit utile.
Pour parler d'une boîte à rythme, on aurait pu inviter un spécialiste des circuits RLC, de la synthèse FM et des convertisseurs D et A, non A vers D, enfin je sais plus trop, mais ça aurait pu vous distraire en fait. Nous allons donc avoir un cours illustré de la boîte à rythme avec Tom Terrien, artisan de musique électronique, collectionneur de synthé vintage, pianiste non pas dans un bordel mais dans les champs, agriculteur qui accepte les hippies dans sa cour. Mais une seule fois par an, si je me trompe, durant l'été.
Ou deux.
Tom, merci d'être là.
Bonjour. Je suis Thomas Terrien, donc enchanté. Voilà. Ravi d'être là.
Merci. Tom, tu nous as amené un engin qui est impressionnant. Il y a des potards partout.
Ouais.
L'âgé que je suis, il est là, il fait le pouvoir toucher.
Ça donne envie, c'est vrai.
Ça donne envie. Donc, quel est cet engin de fou, sachant qu'en donc en fait c'est en deux parties.
Alors,
On fait de la radio, donc on fait exprès de paumer l'auditeur dans ce qu'on va décrire.
D'accord. Alors c'est une boîte bleue électrique avec des boutons qui tournent, noirs. En fait c'est une Vermona DRM1 MK2, c'est une boîte à rythme.
Voilà. Et pour donner une idée, le nombre de potards, il y en a 8 x 10, c'est ça?
C'est ça. J'ai pas compté. J'ai jamais compté en fait. Non, 8 x 8. Hein. Ouais, je passe pas le temps à compter. Je passe le temps à tourner les boutons, mais à les compter, non. Alors, il y a 8 tranches et 8 boutons par tranche.
Ouais, donc ça fait 64 boutons.
C'est du 64, hein. Ouais. Mais on est souvent sur du 64 dans les outils électroniques. Ils aiment bien 64.
D'accord.
Les trucs à pads aussi, t'as 64 pads.
Le Commodore 64 aussi.
Commodore 64. Il y a un truc, je pense que... 6 et 4, 10, 1 plus 0 égale 1, c'est le commencement en fait.
Oula. tu as juste devant en fait une surface de contrôle.
Oui, alors ce que j'ai pris avec pour qu'on puisse entendre la Vermona, parce que la Vermona elle n'est pas autonome. Contrairement à la TR-808 qui a un séquenceur, etc. Enfin, on en parlera plus tard sûrement. Et, donc c'est un Beatstep Pro, ça s'appelle. Ça s'appelle c'est un petit séquenceur hardware qui permet de piloter les sons de la Vermona, de créer des séquences rythmiques en se servant des pads et de petits pads aussi pour de petits potards rotatifs pour pouvoir contrôler certains paramètres. Voilà, elle pilote la Vermona en MIDI. Voilà.
Et pas à 14h, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, non, désolé. Voilà. On va parler avant ça, d'une table, d'un séquenceur qui est mythique, qui est la 808 de Roland.
Ouais.
Voilà. Donc, elle a vraiment marqué. Elle a un look années 70.
Ouais.
Et en fait, elle a révolutionné énormément.
Alors, j'ai lu des trucs un peu avant de venir, parce que bon, je suis pas hyper méga au fait, mais j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait ça avait fait un gros flop quand c'était sorti la TR-808. La sortie.
Oui, les gens ne trouvaient pas le son correct.
Non, ils trouvaient que c'était trop synthétique en fait. Mm. Et sa concurrente directe, c'était la Lindrum de Roger Lind, qui est beaucoup plus. Qui a plus cherché à imiter vraiment la batterie. Les sons de caisse claire sont beaucoup plus fat. Et la Lindrum a complètement défoncé la TR-808 au moment où elles sont sorties. Et c'est assez drôle comme histoire. Il y a plein de...
Ce qui est amusant, c'est que c'est le fait qu'on puisse triturer le son, c'est revenu en fait par la house.
Par la house?
Par la house music,
ouais,
et tout
sûrement.
Ça. C'est le fait que, justement, le son, on pouvait le rendre encore plus extrême.
Oui. Bah, en fait, j'en parlais cet après-midi avec un pote en studio. Il y a certains instruments électroniques qui réagissent vachement bien aux effets, en fait. Mmh. À certains effets. Et c'est vrai que la TR-808, elle a une basse qui est... elle a une fréquence basse. Son kick, il est mythique. Sur tous les reportages sur la TR-808, tu les vois, les mecs, la chose dont ils parlent, c'est vraiment la basse de la TR-808. Cette espèce de profondeur et de kick qu'on peut distorsionner à volonté. Que n'a pas la Lindrum, qui a un kick beaucoup plus sec.
Mmh. Et en soit, le son, il est généré comment derrière? C'est des samples? C'est de la synthèse FM? Ou c'est de l'électronique aussi concrète que la musique?
Ça peut pas être du sample, parce qu'à l'époque, je pense que c'était pas possible. Le seul instrument à sample, c'était le mélotron, et c'était sur des bandes. Donc je pense que ça aurait été compliqué. Non, je pense que c'est de la synthèse. Je me demande si c'est pas de la synthèse soustractive même. Enfin, c'est pas vraiment des formes d'ondes qui sont traitées. En tout cas, le kick, à mon avis, c'est vraiment une sinusoïdale qui a été traitée pour former le kick. Et c'est pour ça qu'il a une telle, qu'il est aussi fat en fait. Et d'ailleurs, on a la même chose sur la Vermona. On a chaque son, c'est une forme d'onde en fait. C'est un synthé quoi.
Et ce qui est amusant, c'est que ce synthé est quand même la 808 est relativement vieux. Il date d'il y a un certain temps.
Ouais, je sais pas l'année de sortie d'ailleurs.
78 si je me trompe.
J'avais 2 ans.
À peu près pareil. Et en fait, ça n'a pas vraiment disparu. C'est-à-dire une fois que ça a commencé à s'implanter, même s'il y avait des modèles beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces, qui offraient beaucoup plus de possibilités et qui étaient moins chers, elle est encore d'actualité. Ah. Alors qu'elle a cette ligne années 70 qu'on croirait qu'elle va apparaître dans Stranger Things ou un truc comme ça quoi. Saison 2 bientôt.
Ouais, mais je pense que c'est comme tous les instruments, c'est devenu un instrument à part entière parce que c'est un son unique en fait. Cette boîte à rythme, elle a un son, on la reconnaît direct. C'est comme, certains chanteurs, j'écoutais Grizzly Bear dans la voiture avant de venir. le chanteur de Grizzly Bear, on le reconnaît direct.
Oui, c'est clair. je le reconnais.
Je sais pas, je dis ça parce que j'ai écouté dans la caisse, mais il y a, voilà, un chanteur, par exemple, un chanteur vraiment qui marque son époque, on le reconnaît direct quand il chante. C'est comme, je sais pas, certains guitaristes qui ont vraiment une façon de jouer qu'on va reconnaître. La TR-808, elle a un son qu'on va reconnaître direct, qui a été imité même plein de fois, et c'est pour ça qu'elle a traversé les âges. Ça me paraît assez logique en fait.
Et qui a donné d'ailleurs toute une gamme avec des références qui ressemblent à des Peugeot. La 303, la 909.
Il faut que je rie là. C'est là. Il y a
non, désolé.
Pas de rire.
Si.
Non, mais pas mal.
Et nous sommes donc avec Tom Terrien qui est organiste au milieu des champs et surtout aussi compositeur de musique électronique.
Très bel organe.
Et qui nous a amené donc un monstre à l'ancienne, hein, je vais dire. Ce sont les synthés qui sont rackables. C'est-à-dire, pour ceux qui sont informaticiens, si je leur dis 19 pouces, donc la largeur des engins qu'on met dans les data centers, et ben ça, c'est exactement la même largeur.
Ça va tout de suite leur parler.
Ouais. Voilà, ça se met pareil. Ce qui est amusant, donc, c'est 8 rangs pardon, de 8 potards, donc 64 potards, qui se terminent par des jacks.
Oui.
Ça veut dire que chaque son est indépendant.
Chaque son peut être séparé, en fait. Attends, je vais me rapprocher. Ouais. Chaque son est à sa sortie, en fait, indépendante. Ouais. On peut sortir juste en stéréo.
Et c'est le cas de pratiquement tous les synthés, justement. Toutes les boîtes à rythme sont comme ça, quasiment.
Non, pas forcément. En tout cas, alors, il faut savoir que ce n'est pas une vieille boîte à rythme, ça. C'est un truc qui est sorti il y a quelques années. C'est ça qui est marrant.
Ah, l'ancienne. Ouais, ouais. Oui, parce que le design est vraiment fait pour être ce truc sorti des années 70.
Ça, c'est Vermona. J'adore cette marque parce qu'ils ont, ils ont quelque chose de très à part, quoi. Ils ont vraiment une façon de fabriquer leur matos.
On mettra le site, je l'ai visité, c'est vrai qu'ils jouent énormément sur l'imagerie. Quoi.
Ouais, ils ont, et même la sonorité qu'ils ont, elle est vraiment elle est personnelle, j'aime beaucoup cette marque. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est une réédition d'une boîte à rythme, d'une vieille boîte à rythme de Vermona qui s'appelle la DRM1. Et donc il y a eu la DRM1 MK1 et DRM1 MK2 et là il y a la MK3 aussi qui est sortie, celle-là c'est la MK2 et elle a moins de 10 ans cette boîte à rythme, donc c'est assez marrant de voir cette espèce de revival vintage à quoi ça participe quoi.
Et ben pour le coup comment ça sonne?
Ça sonne comme ça. Donc là je joue la caisse claire, donc si on doit décrire un peu ce qui se passe. J'ai donc 8 potards sur la caisse claire qui me permettent de changer les paramètres. Voilà. Le filtre, la longueur.
Là, c'est marrant, on a vraiment l'idée que tu as la peau qui est plus ou moins tendue. Et tout. C'est vraiment étonnant.
Elle a quelque chose de presque acoustique, cette boîte à rythme. Dans les mix, elle sort, elle est magique.
Vous l'entendez, là, dans le public ?
Ouais, ils entendent. Voilà, donc plus ou moins de noise. On peut même transformer la caisse claire en truc qui n'a rien à voir. Une espèce de vieille réverb chelou qui est assez marrante. Donc le filtre est super efficace. vraiment transformé la caisse claire en grosse caisse, presque. Donc voilà, les kicks sont assez intéressants. Donc on en a trois différents. Qu'on peut, pareil, comme on dit dans le jargon électronique, qu'on peut tweaker à volonté. Donc là, ici, ça sera... Là. Ouais, là, je peux y aller.
Alors, vous l'aurez pas quand, si vous nous écoutez en radio, mais je peux vous dire qu'au casque, il y a une putain de...
Ouais, les basses sont énormes.
Ça envoie.
Ouais, peut-être que c'est un peu fort, faut me dire. Voilà, après, pareil, il y a tout un tas de paramètres. Donc, je peux monter le pitch. Donc, on peut vraiment descendre très très bas. Par exemple, là, on est bien. Donc, on peut rajouter de l'attaque.
Voilà. Oh là là.
On peut rajouter.
Je suis à la limite.
On n'est pas sur un sextoy, monsieur, là. Hein. On peut augmenter la distorsion. Voilà, qui a une très très belle couleur.
Ouais, c'est impressionnant.
On peut faire de la modulation de fréquence.
Donc en plus, les réglages, ils sont analogiques. Donc ça veut dire que si jamais tu as des réglages différents entre les morceaux.
Pas de sauvegarde. Tu peux rien sauvegarder en fait. Moi, ça me plaît bien.
Et toi, tu le fais comment? Tu connais d'avance la position et potard?
Alors,
ou tu les fais au
pif? Je m'en sers très peu en live en fait. Je m'en sers surtout en production, enfin en composition. Mm-hmm. Mais il m'est arrivé de. J'ai fait un live de techno improvisé pour l'électro-alternative il y a. 4-5 ans, je crois, aux abattoirs.
Électro-alternative, voilà, c'est un festival qui a lieu en octobre, si je me souviens.
Ouais,
voilà,
qui a eu lieu là,
sur Toulouse.
Ouais. Mmh. Je crois que c'était il y a 3-4 ans. C'était en première partie de David Auguste.
Ouf, pas guitare.
Ouais, jamais j'aurais refusé. Ou alors il faudrait vraiment me donner beaucoup d'argent. Et j'ai fait une espèce de live techno improvisé où j'avais des clips MIDI qui tournaient sur Ableton, qui pilotaient. Mmh. La Vermona, et donc je préparais les sons de la Vermona au casque pendant que j'avais d'autres samples qui tournaient. Ensuite, je lançais et j'ai fait tout un live d'une heure comme ça. Et je me suis éclaté. Je ne l'ai pas refait parce que je ne suis pas non plus un grand féru de techno, que j'aime bien quand même quand ça break un peu. Mmh. Et puis je suis quand même plus claviériste, pianiste, et j'aime bien la mélodie, voilà. Mmh. Donc je préfère me focusser là-dessus. Mais c'est vrai que cette expérience a été super, et surtout c'était dans des conditions de dingue, avec un son énorme. Vraiment, il y avait un son énorme sur ce concert-là, et je me suis vraiment fait plaisir. Et donc ouais, je de toute façon, dans ma façon de composer, j'aime toujours partir de pas grand chose, et je suis pas le genre de producteur qui va se faire plein de presets à lui, se sauvegarder ses sons pour pouvoir revenir dessus.
Pour les revendre à tous les trucs pendant 5 ans.
Ouais, ouais, ils font ça maintenant, j'ai remarqué. Ouais. Les banques
non,
de
10
sons,
ans maintenant,
c'est...
ça vieillit moins.
Ouais, c'est pas comme le bon vin. Et donc je pars souvent de Z, quoi. Je pars souvent d'une micro-idée que je développe, et du coup, ben, à chaque fois sur la Vermona. Mais bon, comme tout instrument analogique, on est face à des interfaces qu'il faut maîtriser comme un instrument, en fait. Quel que soit l'instrument électronique qu'on va utiliser, à partir du moment où on veut vraiment rentrer sur des instruments avec des possibilités intéressantes, il faut maîtriser l'interface comme maîtriser techniquement un piano. C'est... il faut autant de concentration, autant de temps à y passer, et pour acquérir les réflexes de composition. Et donc, au bout d'un moment, sur ce genre de machine, pour obtenir une certaine sonorité, on va savoir très vite où aller, quoi faire. Et du coup, le plaisir, il n'est pas seulement dans le fait de jouer la note, il va être aussi dans le fait de retrouver le son et de le tweaker, ou de le défoncer, de s'amuser avec les possibilités de modulation sur la machine. Donc le fait de pas avoir de sauvegarde, je trouve ça assez intéressant.
Et puis
créatif.
Et puis ça vient aussi un petit peu des origines de la musique électronique. Kraftwerk racontait que leurs concerts qu'ils faisaient dans les villes dans les années 70, ce gros problème, c'est que le courant fluctuait, le voltage changeait en fonction de l'heure, et donc ça déréglait complètement les appareils.
C'est pour ça qu'ils chantaient faux. Et c'est pour ça que maintenant ils se servent de faux codes. Parce qu'on écoute les premières Alpha de Florian, ça chantait pas forcément super juste. Hein.
Voilà. Dutch qualitat.
Oui, exactement. Après, respect. La fausseté est très poétique.
Donc, ce qui est en fait, là, tu la contrôles donc à partir de ton pad, et c'est contrôlé en fait via la norme MIDI, du coup.
Ouais.
Mais c'est uniquement MIDI. Derrière, on peut pas brancher un clavier en USB ou en PS2.
Bien sûr. Non, on peut pas brancher de USB sur la Vermona. Non, elle est pas si moderne que ça. Elle
d'accord.
Que MIDI. Ouais.
Et on peut mettre des interrupteurs pour s'amuser avec une pédale à guitare ou des interrupteurs de maison.
Après, tu la balances, tu branches tes jacks sur n'importe quelle pédale et ça marche très bien. D'accord. Moi, je m'en sers sur.
Ah, les jacks là-bas, c'est pas les sorties, c'est pour la piloter.
Non, non. Ah non, tu peux pas trigger. Non, non. Il n'y a pas de trigger. Alors, sur la MK3, il y a ce qu'on appelle des triggers, c'est-à-dire la technologie CV Gate hein, qu'utilise le matos analogique. C'est-à-dire, c'est vraiment un courant électrique qui traverse le signal et qui déclenche quelque chose. Hein. Trigger en anglais, c'est déclencher. Et non, là, il n'y a pas de trigger. C'est basique. Hein. On la pilote en MIDI, le son sort. On sépare les audios si on veut. Et on balance tout ça sur sa carte son 8 entrées et on va télécharger les VST gratuits, bien sûr.
Il y en a pas mal.
Et il y en a plein.
Il y en a plein.
Qui sont super cool.
Si vous êtes dans le monde du logiciel open source, vous le savez peut-être, mais Audacity, Ardour se pilotent très très bien, très très bien avec du VST.
Ouais, ouais.
Il y a un vivier assez
MIDI
monumental.
Et super stable en plus,
ouais,
c'est assez rare sur les laptops ou sur les ordis d'avoir du MIDI stable. C'est l'enfer. Petite private joke, on coupera au montage.
Oh non, pas du tout. Non.
Merde.
Dans les conditions du direct, je m'en fiche complet.
Donc pour finir, oui, c'est vraiment c'est très basique. Hein. On n'a pas les possibilités de certaines boîtes à rythme comme la, je crois qu'il y a MFB qui a fait la Tanzbar, qui est où il y a un trig pour chaque élément ou de plein de petites boîtes à rythme comme ça. Et la MK3, elle a ça. Mais bon, elle est à 700 balles. Je les avais pas.
Bon, d'accord. Par contre, ce qui est intéressant, alors, vous l'avez peut-être entendu si vous avez été attentif et que vous nous écoutez au casque, il y a un pfff derrière quand je monte le son.
C'est vrai.
C'est un son analogique, en fait, qui.
Je peux le monter si vous voulez l'entendre. Voilà, c'est ça, là.
D'accord. Donc, il y a une ligne qui.
Alors, en fait, c'est le petit. Alors, on peut parler d'un défaut, peut-être. Je ne sais pas sur la MK3 s'ils l'ont corrigé. Mais effectivement, il y a des bruits parasites, quoi. Il y a ce qu'on appelle un fabricant d'instruments électroniques dirait qu'il y a de la repisse entre les. Je pense que c'est entre les composants, il se bouffe un peu les uns les autres parce qu'il y a plein. Il y en a plein d'autres.
Donc en fait, à l'intérieur, c'est pas un circuit qui est intégré, c'est pas donc un microprocesseur.
Je l'ai pas ouverte. Hein.
Tu l'as pas ouverte.
Non, je pense pas que ce soit un microprocesseur. Je pense que c'est vraiment un système analogique. Ça s'entend quoi. On a vraiment.
Pas à lampe pour moi, pas transistor.
Non, faut pas exagérer. Oh, pardon. Ton casque est peut-être très fort. Hein. Je pense que tu te mets trop fort dans ton casque.
Ah, mais je suis le réalisateur. Donc,
ça va, tu fais ce que tu veux. Même.
D'habitude, tu sais, on pousse un peu.
Ouais, faut comprendre.
À 11.
Ouais. je pense que c'est vraiment un synthé analogique. On peut vraiment en parler comme d'un synthé percussif, en fait, la Vermona. Elle a vraiment ce côté-là. Et c'est ça qui lui donne cette faculté presque acoustique, je trouve, dans un mix.
D'accord. En soi, donc, on a 8 instruments. C'est vraiment dérivé purement de la batterie et personne n'en est sorti.
Tu parles des 8 sons.
Des 8 sons de base. Sur la plupart d'ailleurs, on les retrouve sur la plupart des boîtes à rythme. Il n'y a pas de créativité en soi. Ils essaient d'aller le plus vers.
Tu
vers
parles ce en général
retrouve dans une vraie batterie
ou sur cette
en modèle. Général ou
en
sur
général.
Celle-là
ça, je pense que ça dépend. Mm. Je pense que ça dépend de la marque de la boîte à rythme. Sur la Vermona, on a plein de possibilités. Par exemple. D'un même son de grosse caisse, je vais essayer de ne pas jouer trop fort.
Vas-y.
D'un même son de grosse caisse, on peut aller tellement haut dans le pitch qu'on sort de la grosse caisse, on est presque sur une note.
Ouais, c'est vrai, c'est étonnant.
Et quand on commence à aller dans la modulation de fréquence, on est sur ce qu'on appelle de la modulation en anneaux. C'est-à-dire qu'on crée une auto-oscillation sur le son. Donc on a cette espèce de son un peu métallique. On est complètement sorti du son de grosse caisse, quoi.
Donc là, en fait, tu rajoutes une deuxième note qui est jouée en même temps.
En fait, je fais
beaucoup
je fais,
plus aigu pour remoduler le.
C'est la modulation qui rajoute une note. C'est la vibration en fait de l'oscillateur qui. En fait, c'est deux oscillateurs qui rentrent en collision si on peut dire, et qui crée cette espèce de d'harmonique. En gros, en synthèse, la plupart du temps, quand on veut créer des sons, on gère les harmoniques. En fait, on gère les harmoniques du son. Soit on veut pas du tout d'harmonique, on veut un son très pur. Soit on joue avec les harmoniques pour créer quelque chose. Et sur la Vermona, en tout cas, il y a vraiment cette possibilité d'aller très loin dans la transformation du son. Par exemple, sur le clap, je ne sais plus où il est. Alors, on a un vieux clap qui est quand même assez mou. Et on peut, voilà, si on rajoute un peu de noise, il y a une espèce de reverb. Voilà, on filtre. Donc, encore une fois, on sort du clap presque. On a une espèce d'impact qui va juste servir de prétexte, en fait, à faire un son. Après, il y a d'autres.
C'est marrant, donc ça veut dire qu'on part d'un. On peut parler de scomorphisme, quoi, par rapport aux instruments.
J'ai appris un nouveau mot, yes!
Scomorphisme, ça veut dire, c'est quand ça ressemble franchement à la vie réelle, c'est-à-dire quand tu mets, par exemple, une corbeille en papier qui ressemble à une corbeille sur ton desktop, sur ton écran d'ordinateur, qui est le contraire d'être abstrait, pour aller justement vers une abstraction complète.
Ah, d'accord.
Donc c'est ça qui est surprenant, quoi. C'est que tu joues en fait énormément là-dessus. Ouais. On peut vraiment faire quelque chose qui ressemble vraiment à un batteur.
À ce qu'on voudrait imiter à la base. Mais de toute façon, le synthétiseur, la première fonction du synthétiseur, c'était imiter les instruments. Mmh. La synthèse, c'était vraiment. Il voulait imiter les instruments, quoi. Si on regarde la plupart des presets sur les premiers orgues, c'est flûte, hautbois, trompette. Les pires sons de tout l'univers sont les sons de trompette. Non, mais c'est l'enfer. Le son de trompette sur un synthétiseur, c'est juste. Il y a d'autres sons que tu peux. Même le son d'harmonica du DX7 est exploitable. Ça sera la phrase de ce soir, d'ailleurs. J'aimerais que tout le monde la note. Mais la trompette, non. Mm. Tu peux pas l'imiter. Voilà, c'était. Mais oui, au départ, c'était pour imiter. Mmh. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu les mecs qui ont expérimenté, quoi. Après, attention, il y a eu deux écoles. On a parlé de Roland et tout ça. Il y a eu toute l'époque aussi des synthés modulaires. Hein. Il y a eu Bucla, il y a eu tous ces mecs-là. Mmh. Du coup, on parlait du preset. Il y a eu vraiment la guerre du Moog versus Bucla qui. Moog qui a sorti le premier synthétiseur à preset et Bucla qui a crié au je sais pas comment on dit, enfin qui s'est outré, quoi. Comment ça, des presets, ouais. N'importe quoi, voilà, la synthèse c'est pour les matheux, quoi. Donc il y a eu tout ça aussi, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait une émission de 5 heures pour pouvoir parler de tout ça.
Et quel est l'inconvénient en fait de la boîte à rythme par rapport à un vrai batteur? C'est ta personne avec qui boire tes bières le soir, tu économises en frais de shampouinage de la moquette à cause de ces batteries, de ces pellicules.
L'avantage de la boîte à rythme par rapport au batteur. Je pense qu'on est sur deux démarches différentes. Le rapport au batteur implique un rapport à l'humain qui forcément sera problématique, quel que soit l'instrument. Hein, ne soyons pas sectaires. Quel que soit le sexe, hein, parce qu'à l'heure actuelle, il faut faire attention aussi. Et donc, le rapport à l'humain. La boîte à rythme, c'est juste, pour moi, une façon de composer rythmiquement, pépouze à la maison, voilà, et de faire ses petits patterns. Il y a des outils maintenant qui permettent d'humaniser un maximum. Sa composition rythmique. Il y a des principes de random, de break aléatoire, qui font comme si tu jouais avec un vrai batteur, sauf qu'en fait, c'en est pas un. Donc, l'avantage d'une boîte à rythme, en déplacement, en concert, tu gagnes du temps quand tu démontes le matos.
Oui,
ouais. Ça, c'est pas mal.
La grosse caisse, télécharger.
Tu gagnes de l'espace dans le camion. Mais après, tu perds en un excellent batteur à quelque chose qu'une boîte à rythme n'aura jamais. Mmh. C'est l'imprévisibilité, c'est la personnalité, c'est le jeu de baguette. Je sais pas. Je sais que moi, je joue avec un batteur qui j'en ai testé pas mal des batteurs sans vouloir faire le vieux roublard, mais je sais que moi, j'ai trouvé mon batteur et je le remplacerai jamais par une boîte à rythme. Mais c'est surtout une question de contexte, en fait. La musique, c'est beaucoup de contexte. Hein. J'ai envie de faire ça quels sont les meilleurs outils pour le faire. Un live techno improvisé, c'était parfait, la boîte à rythme. Mmh. Un trio de jazz, je compose des morceaux au piano, j'imagine des trucs à la batterie dessus, le batteur qui va venir, qui va jouer avec moi, il va me surprendre et il va provoquer d'autres choses. Mmh. Donc vraiment, c'est du contexte, en fait.
Et les velléités de devenir chanteur comme Phil Collins. On fait une coupure musicale.
Joli.
Et donc CPU reçoit Tom Terrien, compositeur de musique électronique.
Oui. J'ai une question.
Oui.
Qui c'est qui vous a fait ce générique?
Ah, c'est Alpine Star. Et je te donnerai les références. Bravo. Après, si tu veux. Oui, je sais, mais il y en a plein qui disent votre générique est absolument fabuleux. Mmh. Et ça faisait depuis un bail.
Un bon générique, c'est bien.
Hein. Je sais, c'est très compliqué. Mmh. On dirait ça à certains animateurs que ça choisit bien une nappe sonore sur laquelle on pose des voix.
J'avais fait le générique de une émission de Campus.
C'est pas notre radio, pardon. Ouais, on les salue, les copains de Campus.
Oh, ils sont gentils quand même.
On les a accueillis quand ils ont été noyés.
Je vous écoute, monsieur.
Eh bien, maintenant, il nous reste 5 minutes pour nous expliquer un petit peu les bases de la rythmique.
Les bases de la rythmique.
Rapidement.
Qu'est-ce que c'est que la rythmique?
Ouais.
Le solfège rythmique.
Oh. Fais-nous une petite démo, comme ça, et tu dis quel bouton tu appuies, et puis voilà.
Ah, ok, donc je me sers du séquenceur. Donc là, j'appuie sur play, donc il y a différents pas qui défilent, je choisis mon son.
Ouais, c'est impressionnant parce qu'en fait, il y a 12 LED qui s'allument séquentiellement, un peu comme, une guirlande de Noël, ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir un chat à côté.
Et chaque... ouais, d'ailleurs, mon chat, il a pété les plombs, déjà. Et en fait, les 16 LED qui s'allument correspondent à chaque double... En fait, c'est les doubles croches. Chaque temps est marqué par un trait noir. Et donc, je vais changer. Et donc, du coup, je peux changer le son... Un peu bas, attention à tes oreilles. Un petit peu trop de distorsion quand même. Voilà, là il est joli.
Ah ouais, il est fat.
Voilà, donc là j'ai placé mon kick. Je choisis mon son. Par exemple, là, on va mettre un petit charlet. Donc après, il y a des petites fonctions sur le beatstep qui sont marrantes, comme ce qu'on appelle la fonction repeat. C'est des choses qu'on retrouve pas mal sur pas mal d'instruments. Donc là, j'appuie sur enregistrement. Voilà. Ah, il y a le swing. Okay.
Et en fait, donc, quand tu composes de cette manière-là, tu composes en fait par couches successives, instrument par instrument.
Soit tu fais ça, soit tu peux jouer en temps réel aussi. Hein. Moi, des fois, je les joue, mes patterns. J'aime bien jouer mes patterns en temps réel. Là, c'est pour l'occasion, je me sers un peu du step séquenceur pour... pouvoir en parler. Après on rajoute ces éléments. Bon, là je fais qu'une seule mesure, mais on peut multiplier en plusieurs mesures. On peut faire 4 mesures sur cette chose-là. Mm-hmm. Alors pareil, je vais enregistrer. Voilà. Et ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant que ça tourne, on peut complètement retravailler les sons. Voilà, par exemple, je trouve que le pas numéro 16 est trop fort, donc je vais appuyer sur vélocité, et là je tourne.
Donc la vélocité, c'est la manière dont tu attaques la note.
C'est la force avec laquelle je vais jouer la note. Voilà, super, je prends. Voilà, puis je trouve mon charlet un peu petit. Voilà, ça commence à me plaire. Et là, je parlais du random, par exemple, tout à l'heure. Donc il y a une petite fonction qui s'appelle randomness. Et probability, et donc je lui donne une probabilité de 50%, et la fameuse, ce qu'ils appellent le randomness, je le monte à
25%. D'accord, ok, là on 25, sent qu'effectivement, c'est
il y a des variations qui vont se créer, voilà, il y a des coups qui vont se rajouter, voilà, des coups qui vont s'enlever, donc voilà, ça c'est assez rigolo, je trouve, sur ces petites machines-là.
Qu'on y met la faillibilité.
Exactement.
Alors que nous, on fait tout l'inverse quand on programme. Hein. Voilà. Nous, les développeurs,
c'est la virgule flottante ici n'existe pas. Et voilà, des petites choses comme ça pour. Voilà, qui créent des espèces de breaks comme ça. Par exemple, l'avantage de piloter comme ça avec un outil externe, c'est quand on a ces espèces de trucs de repeat qui bougent, on peut. On peut vraiment, on est vraiment dans un rapport instrumental et de gestes, plus qu'avec la souris en mettant des petits carrés dans des cases. Et ça, je trouve ça assez sexy en fait.
D'accord.
comme procédé, le fait de pouvoir s'enregistrer, laisser tourner l'ordi et jouer avec son instrument, et puis après on choisit les moments qui nous plaisent, on les remonte. Mmh. Voilà. Bon, c'est un peu sommaire, mais on pourrait presque monter tout un live, toute une. Enfin, voilà, tout...
Merci beaucoup en tout cas Tom Terrien d'être venu avec ton matériel pour faire cette petite démonstration en public au pied levé. On mettra toutes les références vers donc ton SoundCloud. Tu as aussi plusieurs sites en participatif.
Page, ouais.
Voilà, on le mettra sur le site cpu.pm.
Merci beaucoup.
Et en tout cas, ben voilà, c'était une très chouette expérience,
ouais,
qu'on a fait. Okay. Et on espère que ça donna peut-être envie justement à plein de gens de se mettre un petit peu à la MAO, la musique assistée par ordinateur. C'est probablement le début d'une belle suite,
ouais,
dans notre programme.